Et en compagnie aujourd'hui de la revue Critique et surtout de son directeur, Philippe Roger. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'une revue qui propose à ses lecteurs d'évoquer les végétaux. C'est un petit air de printemps que vous proposez à vos lecteurs.
Oui, mais c'est un mois idéal pour mêler nature et culture, puisque vous songez à ce rituel immuable à Paris, porte de Versailles, hein, avec le salon du livre qui succède directement au salon de l'agriculture. Enfin, pour mille raisons qui sont assez compréhensibles, la condition animale fait davantage débat aujourd'hui que la condition végétale, y compris dans Critique, puisque nous avons consacré un spécial il y a quelques années intitulé « Libérer les animaux ». Mm-hmm. Et quand Thierry Hoquet est un philosophe qui s'est fait connaître par ses travaux sur Darwin, sur le darwinisme, quand il est venu me proposer d'aller voir du côté des végétaux, j'ai d'abord été un petit peu intrigué et très vite conquis. Hein. Il se passe vraiment des choses du côté des plantes.
Oui, et alors il y aurait selon vous une révolution végétale à l'œuvre en ce moment ?
Alors c'est le titre qu'il a choisi de donner à cet ensemble, et il faut prendre le mot révolution avec souplesse, disons, on risque de vous décevoir, cher Mathieu. Nous ne prophétisons pas une insurrection générale du règne végétal pour les prochaines semaines, mais encore qu'il y a une scène de ce genre dans un très beau livre, que je trouve magnifique personnellement, de Jean Giono, Les vraies richesses. Mm-hmm. Giono imagine une sorte d'encerclement des villes par les forêts.
C'est un peu les monstres plantes.
Oui, c'est les monstres plantes. Mais ça, évidemment, c'était une allégorie très politique chez Giono. C'est en 1936. C'est assez fascinant de penser que c'est exactement le même moment où, en Chine, comme on dit dans les feuilletons, et pendant ce temps-là en Chine, Mao Tse-tung théorisait l'encerclement des villes par les campagnes. Enfin, quoi qu'il en soit, ces forêts de Giono de 1936, elles jouaient aux petits soldats, mais elles restaient quand même très allégoriques et terriblement anthropomorphiques aussi.
Alors dans Critique, ce sont de vraies plantes que nous allons rencontrer, ce n'est pas seulement des symboles allégoriques.
Voilà, alors c'est un peu la question que pose un de nos auteurs, Stéphane Habert, à propos du livre de Jean-Baptiste Vidalou, Être forêt, être comme le verbe être, pas comme l'arbre, habiter les territoires en lutte. La forêt, effrayante ou luxuriante, refuge, cachette, base d'opération, bon, elle est liée à toute une mémoire des irrégularités et aussi des insurrections. Et symbole et réalité, ici, je crois, s'interpénètrent, hein, comme il le montre. Est-ce que la forêt reste encore aujourd'hui un lieu bien réel de résistance ? Sans doute, dans plusieurs pays. Est-ce qu'on peut dire, comme le fait l'auteur du livre, qu'il y a de la forêt partout où ça résiste ? Fin de citation, c'est également une idée intéressante.
Mais ce n'est pas seulement à des révolutions politiques, j'imagine, que renvoie votre titre.
Non, en effet, et autant et plus à des révolutions de pensée, disons. Il y a un lien fort et ancien entre la philosophie et le végétal. Pourquoi est-ce que l'image de Rousseau en train d'herboriser a été aussi populaire ? Mais sans doute parce que elle est apparue comme une figure possible de la philosophie même. Et vous vous souvenez sans doute du beau livre de Jean-Marc Drouin, mm-hmm. L'herbier des philosophes, paru il y a tout juste 10 ans. Mm-hmm. Il a beaucoup contribué, ce livre, à redorer ce qu'on pourrait appeler le blason philosophique des végétaux. Et pourtant, comme le dit Jean-Marc Drouin lui-même, que nous avons interviewé pour ce numéro, le règne végétal, je le cite, n'a pas encore dans notre culture la place qu'il mériterait.
Donc vous voulez dire qu'il nous faudrait davantage penser avec les plantes ?
Oui, penser avec les plantes, et grâce à elles, on peut penser des objets très variés, bien au-delà de la botanique. Alors, deux exemples, notre propre histoire, l'histoire des conquêtes coloniales, des échanges mondialisés, dans lesquels les plantes ont souvent été centrales, comme le montre Samir Boumediene dans « La colonisation du savoir ». Le héros de son livre, c'est le quinquina. Mm-hmm. Et ce sont les plantes médicinales du Nouveau Monde que s'approprient les Européens et qui deviennent ainsi, pour l'historien comme pour le philosophe, révélatrices des rapports coloniaux. Et puis dans un tout autre registre, on peut penser avec les plantes ou repenser l'idée d'individu, l'idée même d'individu. Voyez les pissenlits que nous montre Karine Prévost dans ce numéro. Vous en voyez tout un pré, cher Mathieu, mais ils sont tous génétiquement, ils sont identiques. Hein. C'est donc ce pré qui est l'individu. Même chose avec les peupliers faux-trembles. Je suis sûr que vous êtes très familier des peupliers faux-trembles.
Oui, oui.
Vous en voyez une futaie, mais génétiquement parlant, il n'y en a qu'un. Et vous parlez d'individu, comme s'écriait déjà Diderot. Et nous, humains, que sommes-nous ? Et si nous étions, nous aussi, des lichens, c'est-à-dire composés d'espèces différentes ? Vous voyez, les végétaux sont vertigineux.
Et bien voilà qui donne envie. Merci Philippe Roger, la revue Critique est donc disponible dès à présent en librairie. À très bientôt.